Bon, quelqu'un m'a demandé si vous aviez des questions, que je les note pour pouvoir y répondre après. Est-ce que vous avez des questions? C'est un sage, je pensais comme toi. Alors, vous avez fait la lecture. Alors, on va mettre en pratique ce que nous avons vu dans notre dernière retraite. Je vous avais demandé de lire au moins les chapitres 24 et 25 de Matthieu. Mais vous vous serez rendu compte immédiatement qu'il faut toujours mettre le texte que l'on va essayer de comprendre dans son contexte. Et quand vous commencez au chapitre 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faisait là? Alors, on va au verset 39, au verset 38, puis on entend Jésus dire, voici votre maison, vous sera laissée déserte. Quelle maison? Le temple. Jésus est sur l'esplanade du temple, il a visité le temple, il a parlé dans le temple, et même il a dit des vérités terribles. Ça vous amène au verset 37 du chapitre précédent, quand Jésus, après avoir parlé très vertement aux scribes et aux pharisiens, à tous les responsables du peuple, en les traitant cette fois de malheureux, de fous, d'hypocrites, d'insensés, de serpents, de races de vipères. Est-ce que c'est bien son auditoire? Eh bien, en verset 37, il leur disait, Jérusalem, Jérusalem, tout d'un coup, parce que vous êtes sur l'esplanade du temple, alors vous voyez Jérusalem devant vous, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui t'ont envoyé, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Combien de fois? Depuis quand exerçait-il son ministère pour rassembler les Juifs? Depuis 3 ans, depuis son baptême. Et il leur avait fait plusieurs discours, en particulier le sermon sur la montagne, qui se trouve dans Matthieu. Matthieu a recueilli le plus grand sermon du Seigneur, où il leur montrait ce que serait la loi du royaume si l'on acceptait le royaume. Et pour qu'il y ait un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Alors, il leur parle du royaume parce qu'il est le roi. Il est là. Mais ce roi, quand ils l'ont connu, bon, quand il guérissait, ça allait encore, mais ensuite, ils sont devenus jaloux. Ils ont trouvé qu'il guérissait même le jour du sabbat, ils ont trouvé ce prétexte pour essayer de leur faire condamner à mort. Alors, il a reconnu qu'on ne voulait pas de lui. Le roi n'est pas aimé, n'est pas accepté. Et ils n'ont pas voulu se rassembler. Alors, verset 38, voici votre maison vous sera laissée déserte. Est-ce que ça s'est réalisé, cette prophétie? Oui. Ils n'ont pas voulu recevoir le Seigneur, mais ils ont reçu les Romains à la place, et la maison a été laissée déserte. Votre maison vous sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, mais il y a quelque chose de merveilleux, Est-ce que c'est fini, fini, fini? Est-ce que pour Jérusalem, c'est terminé? Une grande croix? Non. Vous ne verrez plus jusqu'à que vous disiez quoi? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, il y aura un temps où les Juifs appelleront le Seigneur et diront béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On a déjà là un signe qui est encourageant au sujet de la conversion des Juifs. Mais quand on ne veut plus de nous, eh bien, on s'en va. Ne faites pas de rapprochement avec la fin de ces conférences, de ces retraites. Hein. C'est pas parce que j'en ai assez de vous que je pense m'arrêter. Alors, chapitre 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais vous voyez, hein, le Seigneur leur avait parlé, c'est des choses terribles, le chapitre 23 de Matthieu, je me souviens, j'ai prêché une fois à Québec, là-dessus, sur le 23 de Matthieu, dans une grande salle, ça avait été terrible. Mais, les gens sont pas tellement effrayés. Pendant qu'on leur parle, ils regardent les constructions du temple. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, c'est pas mal. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer ses constructions. Comme si le Seigneur Jésus n'avait pas à Dieu pour remarquer une belle construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Vous arrêtez à des pierres, hein? Voyez-vous tout ça? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et pour eux, ça les touchait. Alors ça les touchait. C'était leur temple, leur sujet de gloire. C'était là que, soi-disant, ils adoraient Dieu. D'une façon tout à fait malsaine. Et on se fait ce point. Alors, il s'assit sur la montagne. Voilà, de nouveau, quelqu'un qui a assisté. Le Seigneur assit. Eh bien, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Donc, il n'est pas pressé de descendre. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Donc, il n'a plus autour de lui que les disciples. Des gens qui sont censés pouvoir comprendre. Et il dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement à la fin du monde, littéralement à la fin du siècle, à la fin de cette économie? Eh bien, vous voyez, ils sont surtout intéressés pour savoir, parce qu'il a dit, vous pouvez lier avec le verset 39, hein, vous ne le verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors maintenant, il commence à être intéressé. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement, donc de ta venue, où l'on pourra dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur? Puis en même temps, il voudrait savoir comment le monde va finir. Verset 4. Jésus leur répond. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et au cours de l'histoire chrétienne, vous les avez eus, ces gens qui sont déjà présentés en prétendant qu'ils étaient le Christ. Et il y a eu des gens troublés, il y a eu des églises divisées, on a quitté des églises pour aller là où quelqu'un se disait être le Christ, qui en a bien profité, surtout les femmes. C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, vous voyez que c'est la séduction. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre, déjà de ce temps-là, hein. et de bruit de guerre. C'était quand les Romains étaient encore les occupants. Donc il y a déjà eu une partie réalisée. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il montre bien la chose. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements et des tremblements. Il y en a eu au cours de l'histoire de la chrétienté? Oui. Mais à la fin, il y en a de plus en plus. Tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Vous voyez qu'il ne les encourage pas nécessairement, hein. Il les avertit. Et moi, je suis toujours extrêmement reconnaissant pour une infirmière de Montréal qui, en 1960, quand je suis opéré, a pris du temps pour se mettre à côté de moi, dans mon lit, et me dit, vous allez beaucoup souffrir. Et elle m'a averti de tout ce que j'aurais. Elle ne m'a pas trompé. Et je vous promets que si je suis encore là, c'est que ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup souffert, mais j'avais pas peur. Elle m'avait dit que je souffrirais beaucoup. Mais elle m'avait dit la vérité, elle m'avait dit, oh, c'est rien du tout, vous n'allez pas souffrir, etc. Et que je me sois trouvé dans de telles douleurs, eh bien, j'aurais eu peur. Non, on est averti. Il faut savoir dire la vérité. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Ça va jusque là. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ça, ça est arrivé avant l'an 70. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Vous voyez quel climat ils ont déjà connu. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, nous n'avons pas le temps de nommer tous ces faux prophètes, mais historiquement ça a eu lieu, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on peut dire que ça, c'est une vérité qui demeure toujours. Quand l'iniquité, qu'est-ce que c'est? C'est le péché. C'est une marche sans frein et sans loi. Voilà la définition de l'iniquité. L'iniquité, c'est une marche sans frein et sans loi. On peut tout faire. Il n'y a pas de mal. Eh bien, quand l'iniquité va en augmentant, qu'est-ce qui se passe même chez les croyants? L'amour de plusieurs se fragilise. On subit l'ambiance, l'atmosphère. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ça a déjà eu lieu avant l'an 70. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, c'est là que vous devez faire attention en pensant. Pour que la fin arrive, il faudrait que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Comme ce n'est pas encore fait, donc le Seigneur ne peut pas revenir bientôt. C'est une des premières conclusions que certains parce qu'ils pensent que ce sont les chrétiens qui doivent être les témoins jusqu'au bout de ce témoignage du Seigneur. Et le Seigneur alors a donné des précisions sur attends, parce qu'il y a plusieurs temps, il y a une partie qui s'est réalisée quand Jérusalem a été détruite, et puis comme le cœur de l'homme est toujours le même, eh bien on s'y retrouve. Mais le Seigneur continue. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Or, alors, il faut aller dans le livre de Daniel, Et puis vous voyez ce que c'est que l'abomination de la désolation, c'est qu'on a placé dans le temple du Seigneur l'image du Romain. Que celui qui lui fasse attention, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et vous voyez que c'est toujours ainsi que ça se passe quand il y a la guerre ou des troubles, eh bien, si on veut échapper, qu'est-ce qu'on prend? Le maquis. Hein, on prend le maquis. On fuit dans les montagnes. Que celui qui est sur le toit ne descende pas prendre ce qui est dans sa maison. Il faut savoir que notre vie est plus précieuse que nos biens, mais il faut le savoir déjà. Hein. Et celui qui sera dans les champs, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et puis, vous voyez la tendresse du Seigneur, malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ce jour-là. Il pense justement à ces femmes enceintes. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Vous voyez que même le Seigneur a parlé de l'hiver, celui qui a fait des saisons. Et c'est le temps qu'il fait, même en hiver. Et vous savez, à Jérusalem, il peut faire des fois très froid en hiver. Ni un jour de sabbat, parce que le jour du sabbat, on n'a pas droit de faire plus que tant de kilomètres pour se promener. Donc on ne peut pas fuir. Alors si ça arrive un jour de sabbat, on risque d'être perdu. Mais le Seigneur a mentionné cette histoire de Daniel. Je ne peux pas entrer dans les détails. Et vous pouvez lire la seconde moitié de la 70e semaine d'année de Daniel, où il parle alors de la grande tribulation. Et verset 21. Car alors, la détresse. Alors ça, c'est une détresse qui n'a pas encore eu lieu. C'est la détresse qui vient et qui est annoncée par le Seigneur Jésus dans la prière dominicale. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Hein. C'est la tentation, comme je le disais ce matin, eschatologique de la fin des temps. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Est-ce qu'on a déjà eu cette détresse? Non. On l'a pas encore eu. Mais elle vient et elle est annoncée par le prophète Daniel et c'est une détresse qui va venir sur le monde entier. Et c'est ce que nous devons bien comprendre, c'est pas seulement, c'est pas la tribulation des Juifs, il y aura la tribulation des Juifs, hein, une partie spécialement pour les Juifs, mais c'est une détresse qui vient sur le monde entier. Chapitre 12 de Daniel, en temps-là se lèvera Michaël le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Quel est le peuple de Daniel? Les Juifs, hein, donc ils existent. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Donc il y aura des sauvés. Mais qu'est-ce que vous voyez? C'est que le Seigneur parle d'un temps où il y aura des Juifs en Israël. Et pendant tout un temps, il n'y en avait plus. De sorte que maintenant, ils y sont. De sorte que tout peut se réaliser parce que les Juifs y sont et ça va s'appliquer pour eux. Et vous savez que beaucoup de gens traduisent pour les Juifs non seulement l'Ancien Testament, qui n'avait le droit de lire l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, et j'en connais beaucoup, qui lisaient aussi le Nouveau Testament. Et qui connaissent et verset 16. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, où est-il un lieu saint? Oui, mais où? Oui, mais maintenant, est-ce qu'il y a le temple? Mais de quoi est-ce qu'on parle? D'un tunnel qui va où? Pour reconstruire ce temple. Et que les pierres sont déjà toutes numérotées pour le rebâtir. Mais pour que ça arrive, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il y a à l'emplacement du temple? Il y a la mosquée d'Omar. Et il y a des juifs qui priaient pour que Saddam Hussein tire assez bien ses choudas pour que ce soit les Arabes qui mettent par terre la mosquée d'Omar, et alors après, ça serait beaucoup plus facile de reconstruire le temple. Comprenez-vous, il aurait nettoyé. Il leur aurait aidé. Eh bien, vous savez, tout cela va s'accomplir. Et alors, il y en a, n'est-ce pas, qui prient pour cela chez les juifs fanatiques. Alors, et qu'est-ce qui se passera? Je ne peux pas entrer dans les détails. Donc, je vous ai dit, il y aura un moment où toutes les nations seront contre Israël. Lisez ça dans Zacharie. Est-ce que vous ne commencez pas à voir cela? Même Monsieur Chirac, hein, où les nations sont de plus en plus contre Israël, parce que ils trouvent qu'ils sont injustes vis-à-vis des Arabes, etc. Et alors, ces paroles auront leur accomplissement. Et au bout de 7 ans, celui que les Juifs auront accepté comme roi, parce que ce qui va arriver, c'est que les Juifs vont accepter quelqu'un comme chef, comme roi. Ils ont refusé qui? Le Christ. Et le Christ a prophétisé cela. Quand moi je suis venu, vous ne m'avez pas reçu. Mais quand il en viendra un autre en son propre nom, cela vous le recevrez. Cela vous le recevrez. C'est le chapitre 5 de Jean. Alors voyez, il est bien dit que celui qui dit fasse attention. Alors que ceux qui sont dans les montagnes, je suis dans les montagnes, que celui qui sera ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui allaiteront ce jour-là. Tout cela aura encore sa vérité. Verset 21. Car, alors, la détresse sera si grande, il n'y en aura pas eu de pareil sur la terre, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Vous êtes en plein dans Daniel, et qu'il n'y en aura jamais. Donc ça, c'est encore à venir. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, donc ça sera long, cette tribulation. Non. Mais ça sera terrible. Mais si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et vous vous souvenez que les disciples sur le mont des Oliviers, au moment où le ciel allait s'ouvrir pour recevoir Jésus, les disciples lui ont posé cette question. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce qu'il avait dit qu'il ne reviendrait plus. Et le Seigneur leur a répondu, ce n'est pas à vous de savoir cela. Donc c'est clair. Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a tiré de sa propre autorité. Il y aura un temps où ce sera le moment. Hein. Et quand le moment sera là, rien ne pourra empêcher, comme rien n'a empêché le mur de Berlin de s'écrouler, comme rien n'a empêché la destruction de la Russie, de cette unité russe, rien ne pourra empêcher à l'heure de Dieu. Et alors, vous avez des détails ici. Si ces jours-là n'étaient pas abrégés, verset 22, personne ne serait sauvé. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, où? À Toronto? Ne le croyez pas, j'ai dit lors de la dernière rencontre, Jésus nous avait parlé très fort et nous avait dit, crois-tu cela? Oui, il voudrait qu'on croie certaines choses, mais ça ne le croyez pas. Car il célébrera de faux Christ, de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges. Oh, mais, vous savez, on ne peut quand même pas mettre en vie qu'il serait de grands prodiges. Hein? Et des miracles au point de séduire, s'il était possible même des élus. Ne pensez pas même, moi parce que je suis chrétien, que j'ai la tête sur les épaules, les pieds sur la terre, et j'essaie d'avoir mon cœur dans le ciel, eh bien, je ne serai pas séduit. Tu pourrais être séduit. C'est pourquoi le mot d'ordre de demain matin nous parlera aussi. Car il s'élèvera de faux Christ. Hein, et même si c'était possible, des élus pourraient être séduits. Et quand on lit les journaux religieux, même des personnes évangéliques qu'on croyait fondées dans les Écritures, on voit que c'est ni chair ni poisson, parce qu'ils ont peur. Si c'était le Saint-Esprit, vraiment, si c'était le Saint-Esprit qui agissait comme ça, parce que le Saint-Esprit est libre et qu'il pourrait faire des choses qui nous surprennent, qu'on n'a jamais vues. Et je vous l'ai dit, hein, Dieu permettra même que l'Antichrist, ce faux Christ, qui sera le chef juif, eh bien, il arrivera à faire descendre le feu du ciel pour se faire absolution. Comme Élie n'est pas fait absolution, quand le feu du ciel est tombé sur son sacrifice, alors que Baal n'avait pas répondu, tout le monde a crié, mais c'était l'Éternel, c'était Dieu. Ben, on dira qu'il a donné la preuve qu'il était divin. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car, alors, ça, vous devez vous en souvenir, souligner ce verset. Si vous voulez savoir comment le Seigneur va revenir, qu'est-ce qu'il est dit? Car, comme l'éclair. Ça met long, un éclair? Non. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, il cherche à savoir quand ça sera. Quand ça sera là, ce sera quelque chose de connu. N'est-ce pas? D'absolument connu. Il n'y aura aucun doute à ce sujet, comme l'éclair qui s'en va d'un coin du ciel à l'autre, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire quand le Seigneur reviendra. En quelque lieu que soit le cadavre, là, s'assembleront les vautours. Parce que, au moment où le Seigneur reviendra, ce qui sera premièrement jugé, c'est la fausse église, le cadavre. C'est triste, hein, d'oser dire ça. Tout ce qui n'a que la profession sans la vie. L'apparence de la piété. C'est là que le jugement tombera. Alors, sur quoi le jugement pourrait-il tomber d'abord? Sur la chrétienté. Mettez-vous cela bien dans le cœur. Parce que nous avions un témoignage à rendre qui n'a pas été vécu, et c'est là, là où est le cadavre, où on est mort spirituellement. Est-ce que c'est ça qui nous caractérise, la mort spirituelle dans nos églises, bien souvent? On peut faire beaucoup de bruit. On a remplacé, justement, la mort par le bruit. On fait une musique de plus en plus forte à rendre sourd n'importe qui. Il y a beaucoup de bruit, on n'entend plus la voix du Seigneur, mais c'est vivant, c'est des cantiques, c'est des paroles bibliques, tout ça. Oui, des paroles bibliques. Mais les paroles bibliques, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit des paroles de vie. Il ne faut pas que ce soit seulement des doctrines. Je crois à la sainte doctrine, je suis un orthodoxe, etc. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que je manifeste quelque chose de la vie du Christ dans ma manière d'agir? Et alors, le jugement vient d'abord sur les nations dites chrétiennes et qui s'appelleront Babylone. Un ensemble, une unité qui va se faire entre toutes les religions, parce que chacun a sa religion, et ce sera quelque chose de très beau, parce qu'alors, tout à coup, on dira, comme il est dit ailleurs, paix et sûreté. Hein? Et il est dit ensuite, une ruine subite surviendra. Et quand ils diront paix et sûreté, on n'est pas encore tout à fait. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. C'est un langage symbolique, c'est qui dirige le monde. Vous vous rendez compte comme le monde est dirigé, hein? On envoie des sondes sur Mars, si on n'est pas capable de régler la question du Rwanda. Et d'ailleurs, c'est épouvantable de penser aux somme colossale qu'on envoie, soi-disant, pour régler certains conflits qui nous brisent le cœur. Quand on vous dit un million d'Arabes sont, ou d'Arabes ou d'indigènes, de Noirs, sont dans la peine, mais on n'a pas. Non, on envoie une sonde sur Mars. Les étoiles tomberont du ciel, et c'est ce qu'on voit, hein. Les grands chefs des nations, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, donc vous voyez dans quel sens ça passe, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans ce... Alors vous dites, hein, on voit pas encore tout cela, donc le retour du Seigneur n'est pas pour aujourd'hui, mais faites attention, hein. Ça c'est son apparition en gloire. Que vous avez dans le chapitre 25. Vous n'avez pas l'enlèvement de l'Église dans ce moment-là. Ce n'est pas de l'Église qu'il est question, comprenez-vous? C'est le retour en gloire du Seigneur, et ce retour en gloire du Seigneur se fera avec son Église. Il revient avec les siens, comprenez bien cela. Alors, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. Donc, vous voyez, ce que les anges ont témoigné doit s'accomplir. Il reviendra de la même manière. Donc, on devrait être clair là-dessus. Il revient sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. Pas comme la première fois, comme un petit enfant, comme on nous l'envoie encore, un petit enfant pour Noël, pour nous rappeler la naissance de Jésus. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et il rassemblera ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Est-ce que c'est de l'Église qu'il est question là? J'ai dit non, mes amis. Ce n'est pas de l'Église, mais de ceux qui auront été convertis après l'enlèvement de l'Église. Il y aura encore des sauvés. Mais qui seront ces sauvés? Les gens qui ont refusé le Seigneur avant? Non. Parce qu'hélas, eux, n'ayant pas eu l'amour de la vérité pour être sauvé, ayant connu la vérité, mais n'ayant pas eu l'amour de la vérité pour être sauvé, il est dit qu'ils croiront au mensonge. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a une espèce de propagande pour que l'on croit au mensonge. Ils sont tout préparés pour le mensonge. Ils croiront au mensonge. Et qu'est-ce qu'ils vont adorer? La bête. Et il y a tout un travail pour habituer même nos enfants à voir des bêtes qui parlent. On ne voit bientôt plus que des bêtes à la télévision, tout ce que vous voulez. C'est la préparation psychologique, n'est-ce pas, qui est en plein action. Alors, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison très difficile. J'ai parlé des arbres dans les camps précédents. Dès que ces branches viennent tendre et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération, c'est les Juifs, hein, ils sont là. Cette génération ne passera pas, bien sûr, la génération qui était du temps du Seigneur, elle a disparu, hein, l'Écriture. Mais il y a maintenant une génération de Juifs qui sont sur place. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Ce qui me fait penser que ça peut aller très vite. Une génération, c'est une trentaine d'années. Il y a combien d'années que l'État d'Israël a été de nouveau proclamé, malgré toutes les oppositions? Il y a 50 ans, n'est-ce pas? 48, n'est-ce pas? Bien, on est dans des temps où vous devez prendre la Bible. Vous pouvez vous en manquer, vous pouvez ne pas croire ça, mais je vous dis, j'y crois. Et vous voyez ce que Jésus disait. Verset 33. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, nous croyons que tout s'accomplira. Mais pour ce qui est du jour, et c'est là qu'il ne faut pas devenir fanatique, pour ce qui est du jour et de l'heure, parce qu'on est des gens curieux à savoir ça, hein, le jour et l'heure, et puis, jusqu'au jour, jusqu'à cette heure, on fera des 100 coups. Et puis, juste avant, on s'arrêtera. Mais si justement, le Seigneur ne nous laisse pas cette possibilité, il n'a pas voulu nous dire le jour, il n'a pas voulu nous dire l'heure. Et puis, c'est l'intelligence divine. Il sait très bien qu'il y a un décalage horaire. Et qu'on ne peut pas dire le jour, ni l'heure, parce que ce ne sera pas le même jour, d'un côté de la terre, que de l'autre côté. Ça ne sera pas la même heure partout. Mais il y a une heure qui est l'heure de son retour. Mais ce jour et cette heure, nous ne le savons pas. Dieu seul le sait. Verset 37. Ce qui arrivera au temps de Noé, alors là, vous avez quelque chose qui est très significatif. Le temps où ces choses vont arriver seront semblables, et ça c'est l'enseignement de qui? De Jésus lui-même, hein? Mais ce qui arrivera au temps de Noé, alors ça vous conduit où? À la Genèse. Et qu'est-ce que vous voyez au temps de la Genèse? Les anges qui tombent dans des désirs pour des femmes, et leur esprit enfin se met dans des hommes. Ça crée une race de géants, et pour moi, et vous savez, je vous ai dit que j'étais au Capitaine Aviral il y a pas longtemps, eh bien, je me suis dit en voyant certaines choses, l'homme est une race de géants. C'est ça la première chose. Et quand Dieu dit « Descendons pour voir la tour qu'ils vont faire pour aller jusqu'au ciel », il dit « Qu'est-ce qui les empêcherait ?» dit Dieu. Hein? Mais il descend pour voir, c'est pour des choses qu'ils font. Eh bien, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La vie continuait comme avant. On a toujours eu cette vie là, n'est-ce pas? La vie continuait comme avant. Mais pourtant, depuis 120 ans, Noé prêchait. Et il prêchait non seulement en parole, mais en action, en construisant son arche avec ses enfants. Il ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tout. C'est pas quelque chose qui dit pour le monde. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais cet avènement du Fils de l'homme, ici, ne concerne pas sa venue pour l'Église, elle concerne sa venue pour le monde. Comprenez-vous? Mais après l'heure terrible de l'épreuve, par laquelle beaucoup de gens se convertiront, mais pas par des chrétiens sortis des écoles de théologie d'aujourd'hui ou de demain, mais par des hommes nouveaux, qui seront qui? Les Juifs convertis. Par cette affreuse tribulation que l'on croit est au devant de laquelle ils vont, eh bien, tout d'un coup, ils seront en quelque sorte comme les Israélites qui avaient la mer rouge devant eux, derrière eux, l'épée du pharaon. Qu'est-ce qu'il leur reste? Le ciel à l'horizon. Mais maintenant, les Juifs, eh bien, ce n'est pas par le témoignage des chrétiens qui se convertissent. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui opère aussi à des Juifs qui se convertissent maintenant. Mais ce qui arrivera pour eux, c'est le résultat de cette tribulation des Juifs. Et alors, verset 40, on y arrive, hein. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, donc quand le Seigneur revient en gloire, l'un sera pris. Pourquoi? Quand le Seigneur vient pour juger les habitants du monde après la justice, l'un sera pris pour être jugé, mourir, et l'autre laissé pour vivre, parce que le Christ doit régner. L'un sera pris pour être jugé, c'est le jugement des nations, l'autre sera laissé pour vivre. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. C'est la même chose. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il est donc stupide de demander est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est le jour, que c'est. Ces choses se passeront. Les uns seront dans le travail du jour, les autres seront dans le repos de la nuit. Mais sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, alors est-ce que Jésus vient comme un voleur pour l'Église? Non! Et vous pouvez comprendre, il ne vient pas comme un voleur pour l'Église, on verra plus tard. Il veillerait et ne se laisserait pas, et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Ça, c'est pour le monde. Mais ça peut être aussi pour nous, parce que nous attendons aussi son retour. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens, ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur, et hélas, au travers de l'histoire de l'Église, il y a eu de méchants serviteurs, qui se disent en lui-même, mon maître tarde à venir. Qu'est-ce qu'il a dit cela? Les théologiens. Mon maître tarde à venir. J'ai dit pensé que ça pouvait arriver de son temps, qu'il avait été reçu. Mais quand il a vu que les gens ne voulaient pas changer, vous croyez que Jésus voulait régner sur un peuple irrégénéré? Quand on a voulu le couronner roi, dans un moment d'enthousiasme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Jésus ne veut pas régner sur un peuple irrégénéré. Tandis que l'Antichrist, oui, c'est tout ce qu'il désire. Flatter les convoitises pour pouvoir les dominer, les compromettre. Mais avec Jésus, ça ne se passe pas comme ça. Il se met à partir compagnon, il mange et boit avec les ivrognes. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme scandale dans l'histoire? Et quand je dis l'histoire de l'Église, je mets tout dans le même sac. J'en accepte aucune. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Alors c'est un type qui a perdu son salut? Non, comprenez l'ensemble de l'écriture. C'est pourquoi je vous dis, si vous en restez à une lecture juste pour vous édifier, une lecture d'édification de la Bible pour les avoir d'une façon complète, bien que vous ne comprendrez pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est ainsi qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aurait bien d'autres choses à dire là-dessus. Maintenant, allons au chapitre 25. Alors le royaume des cieux, il parle toujours à ses disciples, sera semblable à des vierges. Vous voyez, ce royaume des cieux qui n'a pas pu s'établir. Maintenant, Jésus prend une autre idée. Pour nous montrer ce qui s'est passé dans ce royaume qui n'a pas pu s'établir. Le roi était là, avec la loi du roi que vous trouvez dans les premiers chapitres de Matthieu. Et qui gouverneront le royaume quand Jésus sera roi. Car, dit l'Écriture, et c'est moi qui l'invente, il faut qu'il règne. Il n'a pas régné. Jusqu'à présent, je vous l'ai souvent souligné, ce qui a régné dans le monde, ce sont des animaux. Qui veut dire cruauté, n'est pas dureté. C'est un lion qui est d'abord là, c'est un ours, et puis vous connaissez les images de Daniel, léopard, Catherine, etc. Puis, en finale, une bête plus affreuse que toutes les autres, qui devra reparaître. Et nous savons ce qu'elle reparaîtra. Mais, il y a des difficultés, hein, pour qu'on se mette tous. Pour que ces nations se mettent d'accord, pour que renaître un genre d'empire romain qui s'appellera peut-être trop tôt, l'Europe de je ne sais combien, théoriquement il doit exister, mais ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Alors, moi, ça me fait pas douter de la Bible quand on me dit qu'ils sont du siècle. La parole dit que c'est dit. Eh bien, attendez. Je crois à l'autorité de la parole. Mais le Seigneur, là, nous donne un exemple. Le royaume des cieux sera semblable à 10 hommes qui, ayant pris leur lampe au début du christianisme, et, disons, quand Constantin s'est converti, tout le monde était chrétien. Hein? C'était le monde entier qui était chrétien. Alors, ils avaient soi-disant tous les lampes. Et puis, ce qui est très frappant, ils attendaient l'Esprit. L'Église primitive, on en a toutes les preuves, était dans l'attente du retour de Jésus pendant leur vie. Voulez-vous en avoir la preuve? Ils vendaient leurs biens, parce qu'ils pensaient qu'ils en avaient plus besoin, et non seulement ils vendaient leurs biens parce qu'il y avait des gens qui avaient faim, qui fallait partager, mais, et donc ils étaient détachés des biens de la terre, mais il y avait aussi d'autres choses qu'ils faisaient. Oui, ils se souvenaient du repas du Seigneur, c'est vrai. Mais, n'est-ce pas, au moment où Constantin a imposé le christianisme au peuple, hein, qui faisait des baptisés, on a créé la chrétienté. Il n'y avait plus la nouvelle. On devenait chrétien par le baptême. 3-4 gouttes d'eau sur la tête, c'était un chrétien. Et c'est ça qui se faisait membre de l'Église. Bien, non? Mais on peut dire une chose, c'est que dans l'Église primitive, on attendait les coups, et je vous disais la preuve, quand Jésus a dit à Pierre de quelle mort il glorifierait son Père, en lui disant, toi, c'est moi, hein, mais il lui dit qu'un jour, un autre se scindra de lui et le conduira où il ne voudra pas. Et il lui disait cela pour lui apprendre de quelle mort il glorifierait le Seigneur. Donc notre mort à nous, nous devons y penser maintenant, devrait être une mort à la gloire de Dieu. Une mort qui glorifie le Seigneur. Autant que notre vie doit glorifier le Seigneur, notre mort aussi est une partie de notre vie et doit glorifier le Seigneur. Est-ce que nous y avons déjà pensé? Nous devons avoir une mort qui glorifie le Seigneur. Mais Pierre, alors, entendant le Seigneur lui dire de quelle mort il allait glorifier le Seigneur, se tourne vers son ami Jean et dit au Seigneur, mais lui, que lui arrivera-t-il? Et qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Que t'importe, toi, suis-moi. Et alors, qu'est-ce qu'on a compris de cela? Que Jean ne mourrait pas, n'est-ce pas? Avant sa venue. Donc, on attendait la venue du Seigneur. Vous pouvez prendre toutes les pages de l'Écriture et vous ressemblez toujours sur vos pieds. C'est l'Écriture qui l'est. Alors, verset 3. Les folles, en prenant leur langue, ne prit point d'huile avec elle. Mais oui, on pensait qu'il allait venir dans la même nuit. Mais les sages prirent avec leur langue de l'huile dans les vases. Et l'huile, c'est le symbole de la vie spirituelle. Donc, elles avaient une vie spirituelle. Comme les poux tardaient. Est-ce que les poux tardaient? Les poux tardaient. Comme les poussardes. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout sa soupir est endormi. On n'a plus parlé du retour du Seigneur pendant des siècles. Qui a eu la réformation qui a remis en valeur la justification par la foi, et au siècle dernier, que vous le vouliez ou pas, il y a eu des hommes de réveil qui ont découvert le retour. Que les premiers chrétiens se réunissaient dans la plus grande simplicité et qu'ils se souvenaient du Seigneur et que le Seigneur avait fait des promesses. Ils se sont mis à lire l'Écriture et ce qui frappe, c'est que c'était dans des pays très différents, des gens qui ne se connaissaient pas, comme Luther ne connaissait pas d'abord Calvin ou Farel. Le Seigneur a toujours pris des hommes, très peu d'hommes, hein, ici, un là, mais il leur mettait la même pensée. Et alors, ces hommes du siècle dernier, qui ont été à l'origine de la plupart des réveils, eh bien, se sont réveillés pour aller à la rencontre du Seigneur. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Mais les folles dirent aux prudents, donnez-nous de votre huile, afin que, pour que nos lampes ne s'éteignent pas. Est-ce que nous pouvons donner la vie à quelqu'un? Non, ce n'est pas possible. Est-ce que des chrétiens dans une église peuvent donner la vie à la multitude qui ne croit pas? Non, c'est clair. Allez vers ceux qui en vendent, c'est leur réponse. Et alors, par ici, et nous en, non, pour que, allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, les coûts arrivent, donc il arrive à un moment précis. On l'attend pas. Il semble que c'est en retard, hein. Mais en fait, il est là. L'époux, c'est pas parce qu'il tardait qu'il est, qu'il ne viendra pas. Alors, on dit, ils ont cru ça, mais maintenant, on n'y croit plus. L'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte se fermait. C'est pas de l'épouse même qui est la question, c'est des amis de l'épouse. Hein. Plus tard, les autres vierges vinrent et lui dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni tout ni l'autre. Il ne les connaît pas. C'est donc pas des gens qui ont perdu leur salut, c'est des gens qui ne l'ont jamais vu. Parce que le Seigneur connaît les brebis, je les connais. Donc vous ne devez pas prendre ce verset, hein, l'isoler, puis dire on peut perdre son salut. Ce soit vous parlez, vous posez ça. Mais il a dit qu'il ne les connaissait pas. Mais les brebis, le Seigneur les connaît. Il en sera comme d'un homme. Nous partons pour un voyage. Voilà une autre image que le Seigneur prend pour inscrire toujours sur son retour. Il sera comme un homme qui part pour un voyage. Qui est cet homme qui est parti pour un voyage? Qu'on ne voulait pas sur la terre. C'est le Seigneur. Il appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il a remis à ses disciples ses biens. Il leur donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc, nous ne devrions jamais nous jalouser des dons que les uns ont pu recevoir. C'est le Seigneur qui est notre Seigneur, et il donne d'après nos capacités. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, il les fit valoir et gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Celui qui en avait reçu un, donc, il avait aussi la possibilité d'être sauvé. Tout seul. Et ce n'est pas la quantité qui fait qu'on est sauvé. Celui qui avait reçu pain alla faire un creux dans la terre, tâcha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Ils doivent rendre des comptes. Ça, nous aurons encore l'occasion d'en parler parce que c'est les questions aussi du tribunal. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Je vous ai parlé des couronnes ce matin, n'est-ce pas? Il y a différentes couronnes qui seront données comme récompense. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le bonheur du Seigneur s'est récompensé. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Ton maître lui dit, c'est ça, c'est bien. Il lui dit les mêmes paroles, c'est ça qui est merveilleux. Hein. Il est juste, il a donné 2 talents, c'est bien, bon, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, vous voyez, ça c'est grave, hein, ça doit parler à nos cœurs. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il savait? Qu'est-ce qu'il manifeste dans ce qu'il dit? L'état de son cœur, il est dépend. Et qu'est-ce que le péché, c'est de ne pas aimer? Je savais que tu es un homme dur. Est-ce qu'on peut dire que le Seigneur est un homme dur? Il était doux et homme de cœur. Et dans le chapitre 12, il était dit qu'il était doux et homme de cœur. Que tu moissonnes ou tu n'as pas, c'est donc un accusateur. Et qui est-ce qui accuse Dieu? C'est toujours très très dur. Celui qui n'y croit pas, qui ne croit pas en. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé, tu amasses ou tu n'as pas vanné. J'ai une peur. Vous voyez que la peur ne devrait pas être chrétienne. On n'a pas à avoir peur quand on est avec le Seigneur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends-le, prends ce qui est à toi. Ton maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais. Vous voyez comme il sait nous parler, le Seigneur. Il nous reprend par nos propres paroles. Hein. Tu savais que je moissonne ou je n'avais pas semé, que j'amasse ou je n'ai pas banni. Vous savez, moi, ça me frappe beaucoup, hein, que le Seigneur nous redise les paroles qu'on a prononcées. Attends. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Au moins, j'aurais pu faire. Il n'y a pas d'excuse. J'aurais pu s'arranger avec le banquier. Ôtez donc le talent et donnez-le à celui qui a les 8 talents. Car on donnera à celui-ci A, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on en fera même ce qu'il a. Et le serviteur initié, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dents. Et alors, on termine. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, c'est quoi de nouveau? C'est sa venue pour l'Église? Non, c'est son retour en gloire, c'est avec l'Église. Quand le Fils de l'homme viendra, on est toujours dans le même thème, dans sa gloire, avec tous ses, on ne devrait pas pouvoir se tromper, mais on lit pas assez la Bible. On ne l'apprend pas par cœur. Avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Quel moyen pour trouver tout le temps là? gloire, gloire, gloire. Il n'est pas venu dans la gloire à Bethléem, mais là il revient dans sa gloire. Toutes les nations, alors notez bien, il est ici question non pas du jugement dernier, comme dans certaines versions on a mis comme titre jugement dernier. Ce n'est pas le jugement dernier. C'est le jugement des vivants, puisqu'il a été donné au Seigneur de juger les vivants et les morts. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est pas que c'est fantastique de penser que un royaume a été préparé pour nous dès avant la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai écrit quelque chose là-dessus, mais c'est une forme d'interprétation. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond que ce que j'ai écrit. J'écrivais dans un temps de guerre, hein. C'était pendant la guerre en Europe, et nous devions pouvoir discerner ça. Mais littéralement, et c'est l'interprétation littérale que je vais vous donner. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu vivant. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et ils s'appellent les justes, hein. C'était donc des croyants. Mais ce ne sont pas les croyants de l'Église, là. Quoique les croyants de l'Église devraient faire la même chose. Mais là, ce sont ceux qui auront été sauvés à travers la tribulation. Il y aura des sauvés. Mais sur quoi seront-ils jugés? Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Ils n'ont pas vu, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Les justes avec ça. Parce qu'on ne pouvait plus acheter ni vendre. Si on n'avait pas la marque de la veste sur le front. C'est passionnant, la prophétie. Mais pas vu. Mais j'avais faim. Et malgré le danger de mort qui vous menaçait, vous m'avez donné à manger. Vous voyez que c'est une vraie nourriture de lire la Bible. Hein. On mange la Bible. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et nous avons donné à boire. Mais quand est-ce que nous t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Quand avons-nous vu recueilli et que nous t'avons recueilli? Ou nu? Ou que nous t'avons vécu. Mais encore aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un dans la pauvreté ou dans la disette, dans la misère, et que vous pensez au Seigneur, qu'est-ce qu'il vous dit, Seigneur, dans la mesure où vous pouvez le faire? De l'aider, parce que c'est une vérité qui reste toujours, ça. Mais littéralement, cela concerne ceux qui vivront à cet instant-là. Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, qui sont les frères du Seigneur? C'est les justes, c'est très clair, ce sont les frères du Seigneur. C'est à moi que vous les avez fait. Et quand, dans l'histoire des siennes, je suis Jésus que tu persécutes, toucher à un chrétien, c'est toucher au Seigneur. Mais faire du bien à quelqu'un, c'est faire du bien à qui? Au Seigneur. C'est ça qui est fantastique. Et c'est ça qui doit devenir notre christianisme. Pas faire du bien seulement parce que notre nom figurera sur une liste de bienfaiteurs. Je crois, mes frères et sœurs, que notre témoignage est de plus en plus individuel. Et au lieu d'être catastrophé par tous les scandales qui arrivent quand vous apprenez que l'argent que vous avez envoyé à telle œuvre a été dissipé par des bandits, soi-disant pour la bonne cause, vous êtes triste. Mais ceux auxquels que vous voyez, avec lesquels vous avez du contact, si le Seigneur vous donne un discernement, parce qu'il faut avoir du discernement pour donner, c'est pas donner n'importe comment, c'est pas vous défendre, mais c'est dire qu'est-ce que tu ferais. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim. Le Seigneur va pas mettre quelqu'un en enfer parce qu'il n'a pas donné une fois à manger. Mais ça, c'est autre chose. J'ai eu faim. J'étais dans cette condition de persécution, mais pas de manger. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger. Vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu. Vous ne m'avez pas vécu. Mais vous voyez, ce sont des principes qui doivent nous entrer, parce que c'est la loi du royaume. J'étais malade et en prison, et vous n'êtes pas venu me rendre visite. Et ils répondront, mes seigneurs, quand avons-nous, vous voyez qu'ils veulent se justifier. Les autres ne se sont pas justifiés, ils ont été étonnés. Ils ont été étonnés tout d'un coup. Il y a une lumière qui leur a été manifestée et ils ont compris. Et c'est ça qui doit nous diriger. Verset 41. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à notre petit, c'est à moi que vous n'avez pas fait péché par omission. J'avais la possibilité de faire du bien et je ne l'ai pas fait. Pour celui qui peut faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui, c'est péché. C'est absolument clair. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et on est juste, on est juste parce qu'on a accepté le Seigneur. Alors, la question, qui étaient les brebis, c'était donc ceux qui ont été évangélisés par l'évangile du royaume et qui ont cru tout en étant des nations et qui ont eu les sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour ceux qui étaient persécutés. De sorte que le monde entier aura l'occasion d'entendre le Seigneur. Mais je vais arrêter pour vous donner le temps de respirer et de vous apaiser avant de finir. Mais je voudrais quand même lire encore dans les Thessaloniciens pour vous montrer comme ça se lit et que, et ce soir alors, comme me l'a proposé quelqu'un, nous parlerons alors de la différence entre la venue en grâce du Seigneur pour les siens et sa venue avec les siens. Maintenant, on a vu sa venue avec les siens. On est là, dans la gloire, avec lui. On partage sa gloire. Mais entre deux, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je lis Qu'est-ce que je vous ai dit que j'allais dire? Stéphanie. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas compris. Ah oui, 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 c'est un peu ça. Oui. Pour ça, je me dis que je suis capable de faire des réunions. Alors, dans le chapitre 5 de la première épistole, parce que ce soir, vous direz, dans le chapitre 50, dans le chapitre 5. 15. Dans le chapitre 15 des Corinthiens, ça va ensemble, et dans le chapitre 4. Voilà. Alors, pour ce qui est des temps, chapitre 5, hein, et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. C'est la même pensée que Jésus leur dit, hein, c'est pas à vous de savoir quand je reviens, c'est le Père qui a décidé cela, hein. Vous voyez comme c'est la même chose. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est pour qui? C'est pour le monde, hein, qui vient comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront, quand les hommes, hein, les régénérés, diront paix et sûreté, et c'est ce qu'ils cherchent maintenant, que ce soit l'ONU et tout ce que vous voulez, hein, on cherche à pouvoir dire paix et sûreté, plus jamais la guerre. Alors, une ruine soudaine les surprend. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Est-ce que ce sont des croyants qu'il est question ici? Non, vous devez pouvoir discerner si ce sont des croyants ou pas. Ce ne sont pas des croyants, le Seigneur ne vient pas comme un voleur pour les croyants. Il vient comme l'époux qui vient chercher l'épouse. Mais pour le monde, il vient comme un voleur. N'est-ce pas? Comme un voleur. Parce qu'ils ont des comptes à rendre. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Donc, c'est très clair, ce n'est pas des croyants. Pour que Satan vous surprenne comme un voleur, vous êtes tous des enfants de lumière. Des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est vrai ou c'est faux? Alors il faut marcher dans la lumière. Et ce que je disais l'autre jour, quand vous marchez dans la lumière, vous marchez sous le sang de Christ. Je trouve ça tellement merveilleux. Si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, le sang du Christ nous purifie de. Mais on dit, mais comment alors est-ce qu'il y a du péché? Mais c'est justement, quand vous marchez dans la lumière, il y a des choses qui vous apparaissent péché. Vous n'apparaissez pas péché avant votre conversion. Mais maintenant, vous dites, bon, ça c'est tout. Ça, je ne vous ai dit. Et vous êtes conscient de cela, mais au lieu d'être troublé, vous savez que le sang du Christ a été versé. Quand nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous sommes des Christ, nous sommes des Christ. Parce qu'il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nos purifier de Christ. Alors nous avons communion les uns avec les autres. Et au fond, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir communion les uns avec les autres? C'est toujours le péché. C'est parce que nous n'aimons pas. et que nous ne voulons pas faire le premier pas parce que nous pensons que c'est nous qui avons raison. Oh, j'ai écrit un petit billet dans qui est pardonné. Oh, je pourrais lui montrer ça qui viendra. Donc, attendant, tu ne montres pas. C'est lui qui doit venir. Alors, évidemment, on ne passe pas les charbons ardents sur la tête des gens. Tandis que quand on voit que c'est celui à qui on a fait du tort qui fait les premiers pas, vous savez, ça peut passer. Ça peut passer. Il est quand même pas content. Et alors, on a une occasion de témoignage, pas du blablabla. Ce témoignage, blablabla, on veut convertir les âmes, blablabla, blablabla, bla, hein. On veut convertir à tout prix nous-mêmes. Si on les refuse, c'est à cause de nous qu'ils croient plus. C'est terrible. Alors que Dieu nous pardonne et que nous soyons concrets, toujours prêts à répondre avec juste réponse à quiconque nous demande la raison de l'espérance. Alors, oui, je reviens au verset 6. Ne dormons donc point comme les autres. Parce que, évidemment, nous avons vu que toutes les vierges, les 12, les 10 se sont endormis. Hein. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui saignent, saignent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, est-ce que nous sommes du jour ou de la nuit? Qu'est-ce que nous aimons faire dans le jour ou dans la nuit? Ayant revêtu la cuirasse de la foi, donc nous y croyons, nous sommes cuirassés par la foi. La cuirasse de la foi, dans tous les domaines, dans la marche, étant ayant revêtu la cuirasse de la foi, et en même temps de l'amour. Cuirasse de la foi et de l'amour, on saura ceci de nous, ayant pour cas le désespoir. C'est votre version? L'espérance du salut, parce que nous nous sommes sauvés quand on est encore dans des corps de faiblesse, dans des corps d'infirmité. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes sauvés en espérant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvés. L'œuvre a été accomplie, tout a été payé, mais pour que nous jouissions de tout ce que le Seigneur a acquis pour nous, il faut qu'il revienne. Et quand il reviendra, les morts en Christ dont nous sommes séparés et pourtant que nous avons aimés, ressusciteront. Et nous, les vivants, nous demeurons comme nous verrons ce soir. Nous serons ensemble avec lui, dans les lieux du Seigneur, avec le Seigneur. Mais nous qui sommes des jours, verset 8, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour classe l'espérance du salut. L'espérance du salut, c'est qui l'espérance? C'est Jésus. Donc l'espérance du salut, quand vous avez bien compris que l'espérance, c'est quelqu'un, l'espérance du salut, c'est la venue de Jésus. Nous avons revêtu l'espérance du salut. Est-ce que c'est cela que nous attendons de toi? Dieu qui nous dit, on nous a tellement dit cela qu'il allait revenir. Il est parvenu. Mais dis donc, dans l'Ancien Testament, ils ont attendu combien? La promesse avait été faite à Abraham. Ils ont pensé. Puis un jour, alors qu'on ne s'y attendait pas, voilà l'homme qui apparaît à Marie. Cette fille de 15 ans qui y croyait. Il y a beaucoup de Québécois qui y croient à 15 ans. Elle dirait pas se faire avorter à 13 ans. C'est terrible. Oui, j'ai osé dire cela. Au stade olympique. Devant toutes les foules. Si le Seigneur devait envoyer l'ange Gabriel à Montréal, où trouverait-il une jeune fille vierge? Ben, vous savez, il y avait un grand silence. Et je me suis dit, moi, c'est la dernière fois que je prêche. Ils m'en voudront. Et c'est une occasion qu'ils nous donnent. Et il faut les aimer assez. C'est pas parce que je les méprisais. C'est parce que je les aime de tout mon cœur. Et quand on voit des pauvres filles, qui ont déjà eu des enfants à 13, 14 ans, puis après ça marche pas, à 17 ans elles se marient, à 20 ans elles sont divorcées, puis ça continue. Vous croyez que c'est réjouissant? Vous croyez que ça ne nous touche pas? Que nous sommes indifférents, nous nous lavons les mains, mais qu'est-ce que c'est pour eux? Et c'est notre star, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. C'est vrai? Mais à la possession du salut. C'est ça l'espérance du salut. La possession. Il y a des choses qu'on ne possède pas encore. Hein. On les a dans nos cœurs. Mais on est encore dans la souffrance. Nous avons ce trésor dans des vases de terre. Afin que l'excellence de la puissance soit manifestée comme étant de Dieu et non pas de... Lui qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, c'est-à-dire que nous soyons en vie, soit que nous dormions, que nous sommes morts, hein, nous vivions ensemble avec lui, mort ou vivant, ou mort ou endormi, hein, endormi dans le Seigneur, nous vivrons avec lui. Donc il y a d'espoir aussi bien pour les morts qui nous ont vantés que pour les vivants. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. C'est ce qu'on a essayé. C'est bien simple. Puis nos sœurs ont bien voulu nous laisser nous réunir comme cela, dans toute la liberté. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour tous ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte. Moi, je suis reconnaissant quand je vois ces œuvres. Ce matin, très tôt, j'étais levé. Voilà l'homme qui s'occupe de prendre les plateaux de la cuisine. Hein. Vous le connaissez, c'est du lacé derrière. Quand vous remettez votre plateau, vous avez vu qu'il y a un bonhomme derrière. Enfin, un bonhomme. Un homme. C'est moi qui suis le bonhomme. Il vient vers moi, puis il me prend les deux mains. Vous reviendrez, n'est-ce pas? Vous reviendrez, alors je pensais, je demandais, je reviendrai. C'est drôle. Ils aiment vous voir, c'est pas moi qui vais vous voir. Ils aiment votre groupe. Ils aiment voir des gens qui se réunissent pour faire quoi? Et voit que vous vous aimez les uns les autres, que vous venez de milieux différents, vous n'êtes pas d'une secte, vous n'êtes pas des choses incroyables. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour eux. Ayez pour eux beaucoup d'affection, un peu heureux. Soyez en paix entre eux. Bon, on va essayer, hein. Jusqu'à demain matin, mais d'abord, on va essayer de français. Nous vous en prions, tous frères, avertissez tous ceux qui vivent dans le désordre, ça n'en a pas, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers lui. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, et recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, c'est quoi? Par moitié des prières? Faites des longues prières? 47 minutes? Non. Rendez grâce pour tout ça. Je vais raconter, là, dans les camps, on voit de tout, hein. Il y en a un qui s'est mis à faire des longues prières. Alors ça a gâté les autres jeunes. Et à un moment donné, il y en a un qui a crié record battu. Parce qu'il contrôlait la longueur de sa prière. Alors, comme ils savent se manger très gentiment, ils ont cousu son pyjama en bas. Et ils l'appellent à l'autre. On en voit de toutes les couleurs. Je pourrais vous raconter des histoires drôles. Ayez pour eux donc beaucoup d'affection, etc. Prenez garde que personne ne rende à autrui le monde. Soyez joyeux, rendez grâce pour tout ce que car c'est à votre égard, quoi? La volonté de Dieu. C'est dur de connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il demande Dieu? Rendez grâce pour toute chose. C'est la volonté de Dieu à votre égard. Au Seigneur, que tu nous donnes le pouvoir en grâce. C'est ta volonté à l'égard de Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Si vraiment c'est l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, on vient de voir. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, les trois parties de l'être, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que nous attendons, c'est le retour en gloire de Jésus-Christ. Mais avant le retour en gloire de Jésus-Christ, il doit se passer quelque chose de secret. Il doit se passer quelque chose qui vous concerne et qui est une pure grâce qui est appelée l'étoile du monde et qui n'est vue que de ceux qui veillent. Avant que le soleil de justice, c'est l'image du Christ qui revient en gloire, ne soit vu par le monde, ceux qui veillent, qu'est-ce qu'ils voient? Il m'arrive souvent de voir, par la grâce de Dieu, et ça demande. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Ça va? Alors, vos questions? Est-ce que ça a répondu à vos questions? Eh bien alors, si ça a répondu à vos questions, ça va drôlement avancer pour la question.
Mais
le temps est bon,
il
m'a fait
avant, mais est-ce
qu'il
s'est
dit que ce soir l'avenir totalement? Ça, Marie, c'est pour ce soir.
Est-ce qu'on
parle
de l'enlèvement
de plus? Est-ce qu'on pense
que...
Tu penses?
C'est pour ce soir.
Mais je voulais que vous puissiez voir d'abord le retour.